Décryptage, Aurélien Devernois.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Les discours se durcissent, la crispation monte aux États-Unis au lendemain de l'élection présidentielle. Le résultat s'annonce en effet très serré avec plusieurs états clés où les bulletins de vote par correspondance continuent d'être dépouillés. Et si cette nuit, les partisans de Donald Trump affichaient leur confiance, les supporters de Joe Biden semblent depuis ce matin reprendre espoir. Mais la bataille s'annonce longue avec deux camps qui se promettent d'ores et déjà de contester le résultat final devant les tribunaux, voire devant la Cour suprême. Mais que dit la Constitution des États-Unis? Quels sont les recours possibles des deux candidats? Peut-on se retrouver dans une impasse juridique et politique? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre durant ce nouvel épisode de Décryptage.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
I'm here to tell you tonight. We believe we're on track to win this election.
Donald Trump et Joe Biden, l'un dit avoir d'ores et déjà gagné, l'autre s'affirme confiant quant à son éventuelle victoire. La réponse, nous ne l'avons pas pour l'instant, mais nous avons Idriss Fassassi en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en droit public à l'Université d'Amiens, spécialiste de la Constitution américaine, et cela tombe très bien. Alors, comme toujours, dans Décryptage, nous allons essayer d'être clairs, didactiques, pédagogues, car la situation est très compliquée et les résultats de l'élection présidentielle, on l'a compris, sont loin d'être encore définitifs. Pour commencer, je vous propose, Idriss Fassassi, de faire un point sur comment les choses sont censées se passer d'un point de vue constitutionnel dans le cas d'une victoire avérée de l'un ou l'autre des candidats?
Alors, le principe, effectivement, est que l'élection américaine se fait en deux temps. Il y a tout d'abord donc le vote des citoyens qui a lieu en novembre, puis qui vont élire des grands électeurs. Et ces grands électeurs vont se réunir en décembre pour voter eux-mêmes pour le président. Et le principe d'habitude est que l'on connaît dès dès novembre le nom du vainqueur, tout simplement parce que les grands électeurs s'engagent à voter pour un candidat particulier. Donc, en théorie, on connaît le vainqueur dès le mois de novembre. La difficulté ici, c'est que précisément, en raison du contexte sanitaire et de la pandémie, un certain nombre d'États ont décalé, si vous voulez, la date limite pour le décompte des voix et ont donc permis à ce que des votes par correspondance soient comptabilisés après le 3 novembre. Donc, effectivement, on est dans cette situation où nous n'avons pas encore le total des voix.
Alors ça, c'est pas une anomalie dans l'histoire des élections présidentielles aux États-Unis, puisque que les décomptes finaux se tiennent finalement encore quelques jours après l'élection présidentielle, c'est déjà arrivé.
Alors, c'est déjà arrivé qu'il y ait des contestations, effectivement, et on pense bien évidemment à l'hypothèse de 2000, Larry Bush contre Gore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que dit Donald Trump, en quelque sorte, c'est un rappel, un clin d'œil à Bush contre Gore, et en quelque sorte un appel à Trump contre Biden. Ce serait une version 2020 de l'arrêt de 2000, en espérant que la Cour suprême intervienne pour mettre fin au comptage des voix, de la même manière qu'en 2000, la Cour avait mis fin au recompte des voix.
Alors, on va revenir sur le rôle de la Cour suprême. Tout d'abord, je vous propose de faire justement un focus sur cette élection de 2000. Donc, c'était à l'époque Al Gore, vice-président sortant de Bill Clinton, qui affrontait George Bush Jr., qui était gouverneur du Texas, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et le scrutin était extrêmement serré et l'état clé à l'époque, c'était la Floride. La Floride où c'était tellement serré que c'était difficile de savoir qui avait vraiment le plus de voix dans cet état. Al Gore demandait un recompte des voix. George Bush Jr. Ne voulait pas. Je vous propose d'écouter ce que disait Al Gore plus de 3 semaines après le vote présidentiel, parce que ça a duré très longtemps.
Laissez-moi résumer notre proposition. 7 jours à partir de demain pour un recomptage de tous les votes de Floride. Une fois que nous aurons vérifié et recompté tous les bulletins, nous saurons avec certitude qui est notre prochain président et notre pays pourra aller de l'avant. Malheureusement, il y a une heure, les avocats du gouverneur Bush ont rejeté cette proposition. À la place, ils veulent 2 semaines de nouvelles audiences et de procédures judiciaires pour atteindre la limite du 12 décembre, que ne peuvent pas dépasser les grands électeurs. Leur plan, c'est qu'aucun des milliers de bulletins de vote qui doivent être décomptés ne le soit. Je pense que c'est le moment de compter chaque vote, mais pas de jouer la montre.
Alors, au final, eh bien, le camp Bush aurait eu gain de cause puisque Al Gore décide de jeter l'éponge au tout début du mois de décembre et George Bush Jr. Donc remporte l'État de Floride avec 537 voix d'avance. C'est ridicule à l'échelle des États-Unis avec 150 millions d'électeurs à peu près à l'époque. Ça donne en effet, vous en parliez, Idriss Fassassi, une idée de comment une contestation d'élection peut se mettre en place et pourrait avoir lieu cette année parce que ça a duré quasiment un mois à l'époque. On s'en rappelle moins parce que c'était déjà il y a 20 ans, mais ça avait été extrêmement disputé.
Effectivement, c'est une véritable odyssée judiciaire avec l'intervention de juridictions fédérées, c'est-à-dire des juridictions de l'État de Floride, puis des interventions de juridictions fédérales et, in fine, l'intervention de la Cour suprême. Alors, comment cela s'est-il déroulé? L'argument invoqué était que les opérations de recomptage des voix qui avaient été décidées par la Cour suprême de Floride étaient présentées comme étant contraires à la Constitution fédérale, comme étant contraires au principe d'égalité garanti par la Constitution fédérale, l'argument de Bush étant que, enfin des avocats de Bush étant que la Cour suprême de Floride n'avait pas donné suffisamment d'indications sur la manière dont ces opérations de recomptage devaient se dérouler. Et donc la Cour suprême accepte en début décembre de se prononcer sur cette question et elle considère effectivement qu'il y a une violation de la Constitution fédérale et donc elle met un terme aux opérations de recomptage des voix, ce qui donne de facto la victoire de Floride, de l'État de Floride à George Bush et la victoire donc à l'élection présidentielle. La question ici, c'est de savoir dans quelle mesure une juridiction fédérale peut intervenir dans un domaine, à savoir donc la matière électorale, qui relève traditionnellement des États fédérés. C'est ça la difficulté, et ça va être également la difficulté aujourd'hui dans un hypothétique arrêt Trump contre Biden.
Alors c'est vrai que là, la situation est un petit peu différente, parce qu'il y a plusieurs États qui sont en jeu pour l'instant. Ça peut se finir avec un seul État au final, qu'on pense au Michigan, à la Pennsylvanie, au Wisconsin, à l'Arizona, à la Caroline du Nord, à la Géorgie. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de contestation dans chacun de ces États pivots, comme on les appelle. Sauf que la situation serait plutôt en défaveur, cette fois, de Donald Trump qui apparaît en retard dans certains États, mais le camp Biden de son côté se dit prêt aussi à aller contester des résultats très serrés dans certains États. Comment on peut finalement appréhender les jours, les semaines qui viennent, vraiment d'un point de vue juridique, d'un point de vue constitutionnel, comment ça peut se mettre en place cette contestation? Est-ce que ça sera comme en l'an 2000 ou est-ce qu'il va y avoir des choses inédites?
Alors, il y a deux manières de voir les choses. La première manière est que, tout simplement, la Constitution, plus précisément le 12e amendement, prévoit la marche à suivre lorsqu'aucun des candidats ne parvient à franchir le cap des 270 grands électeurs. Et dans ce cas-là, c'est la Chambre des représentants qui tranche et qui, résout la problématique de l'élection. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est effectivement l'intervention des juridictions, et en particulier de la Cour suprême. Et là, encore une fois, il va falloir qu'il y ait une accroche fédérale, c'est-à-dire il faut trouver l'argument mettant en cause le droit fédéral que l'on pourra invoquer. Parce qu'encore une fois, les questions liées au droit de vote relèvent traditionnellement des États. Et les équipes de campagne de Donald Trump ont en quelque sorte essayé de reproduire l'hypothèse de Bush contre Gore en invoquant de la même manière la violation du principe d'égalité garanti par la Constitution, en soulevant le fait que la prise en compte des votes par procuration méconnaissait le principe d'égalité. Alors là, il y a une difficulté, parce qu'on n'est pas dans la même situation que dans Bush contre Gore. Dans Bush contre Gore, ce qui était contesté, c'était les modalités des opérations de recomptage. Là, quelque part, il y a une contestation du principe même du vote par procuration.
Ce qui est très particulier cette année, parce qu'on est en année de pandémie internationale, et donc il y a 100 millions d'Américains qui ont voté par correspondance ou en anticipation en raison des problèmes sanitaires.
Exactement. Et les États eux-mêmes ont prévu ces dispositifs. Donc là, ça va être plus difficile de justifier l'intervention du juge fédéral parce que les États eux-mêmes ont prévu précisément que l'on pourrait comptabiliser des bulletins de vote après le 3 novembre. Et les mots sont importants ici puisque Donald Trump présente la chose comme étant le fait que les opérations de vote se poursuivent. Et c'est son argument, en quelque sorte, en disant que l'élection s'est terminée le 3 novembre et malgré cela, il y aurait toujours des votes en cours. Or, c'est faux. Ce ne sont pas les votes qui se poursuivent, mais simplement les opérations de comptabilisation des votes qui ont déjà eu lieu.
Alors, Donald Trump, il a quand même l'air assez sûr de lui. Ses équipes ont probablement fait déjà quelques scénarios. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit dès hier soir.
Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont dit, on va aller devant les tribunaux. Et je l'avais dit, n'est-ce pas? Je l'avais prévu. Je l'avais prévu dès que j'ai entendu qu'ils allaient envoyer des dizaines de millions de bulletins pour le vote par correspondance. C'est exactement ce que j'avais prévu. C'est une fraude contre le public américain. C'est une honte pour notre pays, ce qui est en train de se passer. Nous étions prêts à remporter cette élection. Et on peut déjà le dire, nous avons remporté cette élection. Donc, nous allons nous tourner vers la Cour suprême des États-Unis. Nous souhaitons que tous les décomptes soient arrêtés et nous allons gagner. Et je peux déjà vous dire que nous avons gagné cette élection.
Alors, encore une fois, Idriss Fassassi, ce que dit Donald Trump n'est pas très très clair puisqu'il dit au début... les démocrates ont prévu d'aller devant les tribunaux, mais ils avaient déjà anticipé une fraude massive en bourrant les bulletins par correspondance de bulletins favorables à Joe Biden. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, nous allons aller devant la Cour suprême. Et l'argument de la Cour suprême dans le discours du président américain, il est très fort parce que cette Cour suprême, elle est très largement en sa faveur à l'heure actuelle.
Exactement, donc il y a une double référence à la Cour suprême, encore une fois une référence à Larry Bush contre Gore, c'était la même situation finalement, une Cour conservatrice qui donne finalement la victoire à un président, enfin un candidat républicain. Et là effectivement, la référence à la Cour suprême prend tout son sens, puisque Donald Trump a pu nommer 3 juges à la Cour suprême, dont un juge, enfin la juge Amy Coney Barrett, qui est entrée enfin une semaine seulement avant l'élection. Et d'ailleurs, il avait justifié le fait qu'il fallait aller vite dans la confirmation de la juge Barrett, parce que précisément, la Cour suprême serait amenée à trancher des contentieux liés aux élections, et donc il fallait qu'il y ait 9 juges sur le siège. Donc effectivement, en disant cela et en laissant entendre que la Cour suprême tranchera le contentieux en sa faveur, il met une pression particulière sur les juges de la Cour suprême, et quelque part, il dessert la situation de la juge Coney Barrett qui, quelque part, se retrouve propulsée à la Cour suprême avec un président qui semble indiquer qu'elle voterait dans un sens particulier.
Alors, ça pourrait aller jusqu'à une récusation de Amy Coney Barrett s'il y a justement contestation de ses résultats devant la Cour suprême pour qu'elle ne soit pas finalement mise en porte-à-faux.
Alors effectivement, c'est la grande question, mais la difficulté, ou du moins le principe essentiel, c'est que les juges sont maîtres de la décision de se récuser ou non. Donc c'est elle qui décide si elle se récuse ou non. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême avait jugé en 2009, dans un arrêt, que, en fait, on avait souligné les deux dimensions de l'impartialité, l'impartialité subjective et objective, et en disant, quand bien même un juge serait impartial dans un cas, il faut prendre garde à souligner que il n'opère pas dans un contexte qui laisserait entendre qu'il ne serait pas impartial. Autrement dit, ici, la question va se poser de savoir si les déclarations de Donald Trump ne laissent pas planer un nuage sur la décision à laquelle participerait éventuellement Amy Coney Barrett.
Alors, c'est vrai que la majorité est aujourd'hui très large hein, pour le camp conservateur à la Cour suprême. Malgré tout, ces juges, ils sont nommés à vie. Donc ça peut, dans le cas d'Amy Coney Barrett, durer 3 ou 4 décennies, on lui souhaite en tout cas, et c'est vrai que ça peut être risqué aussi pour eux de tremper quelque part dans une décision qui serait plus politique que juridique.
Alors effectivement, une des difficultés, c'est de savoir dans quelle mesure les juges, enfin, du moins dans son cas particulier, va penser en quelque part à sa postérité, et est-ce qu'elle veut que son nom soit associé à une décision qui pourrait être perçue comme une décision éminemment spécieuse, c'est-à-dire une décision rendue par une cour avec un juge nommé une semaine avant et qui finalement trancherait l'élection en faveur du président qui l'a nommé. Donc ça, c'est effectivement peut-être un des facteurs qui sera pris en considération par la juge, mais encore une fois, c'est très difficile de se prononcer à ce stade sur ce que ferait éventuellement la Cour suprême et en particulier la juge Amy Coney Barrett dans le cas où Elle serait saisie, la Cour serait saisie d'un contentieux en la matière.
Est-ce qu'on peut pas se poser malgré tout la question du poids de la Cour suprême ? Alors certes, c'est l'institution la plus respectée aux États-Unis, c'est elle qui dicte le droit, quelque part, en dernier recours, mais on a l'impression que là, Donald Trump l'utilise surtout à son avantage, ou en tout cas pense cette élection et les résultats de cette élection dans une optique d'une Cour suprême qui lui devrait tout.
Alors effectivement, vous avez raison, il y a sous la présidence Trump un phénomène d'instrumentalisation du droit et des cours en particulier, mais au-delà du cas particulier de Donald Trump, on peut effectivement mener une réflexion sur le poids de la Cour suprême. Lorsque vous avez un président comme Donald Trump, mais d'autres auparavant, qui affirment que l'action la plus importante que peut prendre un président, ce sont les nominations de la Cour suprême, eh bien cela traduit un déséquilibre problématique, c'est-à-dire que il faut s'interroger sur le poids déterminant qu'a la Cour suprême à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire le fait que la Cour va se prononcer sur les questions qui divisent la société américaine, que ce soit l'avortement, la peine de mort, la question des armes à feu ou encore la question de la réforme de l'assurance santé. Et la question qui est posée par la situation américaine est-il souhaitable que dans un régime démocratique, la Cour ait un tel pouvoir ? Est-ce que ça ne traduit pas une perte de foi dans la démocratie lorsque les questions principales sont tranchées par des juridictions et non pas dans la sphère politique ?
Mais finalement, Donald Trump, il utilise toutes les armes qu'il a à sa disposition dans la Constitution américaine, dans le système politique américain, pour parvenir à ses fins. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça ? Est-ce que, quelque part, la situation dans laquelle les États-Unis se trouvent à l'heure actuelle et risquent de se trouver pendant encore quelques semaines, c'est pas révélateur des limites du système politique du pays ?
Oui, je pense qu'effectivement, le cas de Donald Trump, c'est en quelque sorte un projecteur sur les faiblesses structurelles du système américain et notamment les faiblesses de la Constitution. Alors, peut-être qu'effectivement, il se sert des instruments à sa disposition, mais il s'en sert de manière particulièrement poussée et en les dévoyant. Mais vous avez raison sur le fait que c'est révélateur d'un problème bien plus profond et il suffit de s'en tenir au cas des grands électeurs et au mode d'élection du président aux États-Unis qu'on évoquait en début d'entretien, à savoir ce système qui permet à un candidat d'être élu président alors même qu'il récolterait moins de voix que son candidat. Effectivement, ça c'est un grand problème, ça pose un problème du point de vue démocratique et la difficulté c'est que cette hypothèse s'est reproduite à de nombreuses reprises, en 1876, en 1888, en 2000, en 2016, et que c'est très difficile à changer. Et cela est dû à la rigidité de la Constitution américaine, le fait qu'il soit très difficile de changer ces dispositions.
Oui, c'est une Constitution qui a été pensée au XVIIIe siècle, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu en décalage avec la réalité politique actuelle.
Exactement, et je pense que on touche là aux limites en quelque sorte de ce système à travers effectivement, on voit bien le caractère un peu daté de ces dispositions en relation avec l'Amérique d'aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est que précisément cette constitution ancienne fait l'objet d'une véritable adoration, j'allais dire, de la part des Américains. En référence notamment au fait que les pères fondateurs auraient mis en place un système équilibré, un système de freins et de contrepoids qu'il ne faudrait pas modifier. Alors, en pratique, le système a été modifié par le biais justement de la Cour suprême qui a en quelque sorte adapté le texte au contexte, mais ce qui soulève précisément la question du poids des juges dans le système américain.
Et quand bien même cette élection et les résultats mettraient des semaines et des semaines à arriver, ça ne provoquerait pas, selon vous, une sorte d'électrochoc aux États-Unis parmi notamment les juristes disant « bon, ben, il est peut-être temps de repenser cette constitution ».
Alors, très difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que un arrêt éventuel Trump contre Biden serait beaucoup moins bien reçu que ne l'a été l'arrêt Bush contre Gore en 2000. Justement, précisément, l'arrêt Bush contre Gore a marqué une tache sur la Cour suprême, à un problème de légitimité qui a été consacré, qui a été mis en lumière dans cet arrêt. Et donc aujourd'hui, en 2020, 20 ans plus tard, il serait beaucoup plus difficile d'accepter un tel arrêt. Et il y a déjà un certain nombre de propositions de réformes qui sont évoquées, qui sont discutées, et le fait que la Cour suprême tranche par une décision éventuellement contestable l'élection en faveur du président qui aurait reçu le moins de voix au niveau des votes populaires amènerait, je pense, à de sérieuses contestations.
Vraiment en 30 secondes, selon vous, le scénario là qui se dessine, il peut amener jusqu'au 20 janvier, qui est la passation de pouvoir officielle, ou selon vous, ça va se dénouer avant, vraiment en 15 secondes.
C'est très difficile de faire un pronostic, mais Il est fort probable que d'ici une semaine, on ait les résultats des votes. Ensuite, après l'épisode politique, viendra la bataille juridique. Et là, ça peut nous amener jusqu'à décembre, comme en 2000, pour la ribauche contre Gore.
Merci beaucoup, Idriss Fassassi. Je rappelle que vous êtes professeur en droit public à l'Université d'Amiens. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.